Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Depuis mercredi et jusqu'au 29 juin, une exposition du jubilé de la canonisation de saint Thomas d'Aquin est proposée au musée de l'Institut catholique de Toulouse. L'occasion de se pencher dans Vivante Église ce matin sur le parcours de ce saint. Saint Thomas d'Aquin, 1225-1274, un des principaux docteurs de l'Église. Et aussi de comprendre ce que sa vision nous apprend de l'Église d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le frère Emmanuel Perrier, dominicain de la province de Toulouse et spécialiste de saint Thomas d'Aquin. Bonjour frère Emmanuel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je le disais, Thomas d'Aquin, né en 1225 à Aquino, en Italie.
C'est ça. C'est un Italien, fils de Normand, puisque le royaume de Naples est sous le contrôle de familles normandes, de familles nobles normandes à l'époque. Et saint Thomas en retire notamment sa corpulence. C'est quelqu'un qui en impose par sa taille à son époque inhabituelle, notamment dans le sud de l'Italie. Il naît dans un petit château qui est entre Rome et Naples. Et il va osciller entre Aquino, qui est la ville le long de dans la plaine, qui est une ville de passage de commerce, et puis un peu au-dessus, un autre village où sa famille a un château dans les hauteurs, et où elle, qui était plus un château de refuge lors des invasions. Mmh. Et en fait, très tôt, il va quitter ce village parce qu'il va être tout jeune confié à, comme ça se faisait à l'époque, comme oblat, c'est-à-dire jeune enfant, dans une école monastique à la grande abbaye du Mont Cassin qui se trouve à une journée de marche.
Dès le plus jeune âge, il va se faire remarquer. Il reçoit son éducation, vous le disiez, chez les bénédictins du Mont Cassin et ensuite direction l'université de Naples.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce monastère du Mont Cassin, il va apprendre en fait ce qui va rester son régime de vie de toute sa vie. Il ne retrouvera sans doute sa famille que très irrégulièrement lorsqu'il y avait, des vacances scolaires, mais il ne faut pas s'imaginer que ça devait être très fréquent. Et donc, il va être séparé de sa famille très tôt. Et en fait, sa famille, c'est la vie religieuse. Sa famille, c'est ce rythme de vie qu'il va découvrir chez les moines. Et puis, vers l'âge de 13-14 ans, son père le retire du Mont Cassin et lui fait faire des études dans ce qu'on appelait à l'époque un centre d'études générales, un studium generale, qui se trouve à Naples et qui, on va dire, est l'équivalent du collège-lycée, où il se frotte de beaucoup de savoirs qui se développent à l'époque. Naples est une ville de confluence, puisque elle est donc... Il y a l'influence normande, il y a la Sicile pas loin, derrière, il y a tout le contact avec le monde grec et le monde musulman. Et donc, c'est un lieu où on se met à cette époque à étudier l'astronomie, où on redécouvre la grammaire, la rhétorique, enfin toutes ces sciences qui font la joie des élèves, n'est-ce pas ? Qu'on n'enseigne plus aujourd'hui, mais qui à l'époque sont vraiment structurantes de l'éducation. Et il va se frotter à ce moment-là avec notamment des textes venus d'ailleurs, qu'on commence à traduire en latin. Et il y a plusieurs de ces traducteurs qui sont à Naples. Donc on imagine que ce fut à la fois la vie d'un jeune collégien, d'un jeune adolescent, dans une ville... Donc, avec le côté vivant d'une ville du sud de l'Italie, et en même temps studieux, parce que on se forme à l'époque. Il faut se rendre compte que le système éducatif médiéval est un système qui sait pousser au plus haut niveau les enfants. Mmh. Et donc, c'est un système dans lequel, au bout en 10 ans, on acquiert une compétence, une ampleur de connaissances tout à fait exceptionnelle. Mmh. Saint Thomas d'Aquin, c'est, pour une part, le fruit de cette réussite, hein, le fruit de cette capacité du Moyen-Âge à transmettre le meilleur de ce qu'elle a. Elle n'a pas autant que nous aujourd'hui en science, évidemment, mais en revanche, ce qu'elle a, elle sait le transmettre, elle sait former des jeunes à réfléchir, à assimiler toute cette connaissance du monde et de Dieu que l'on peut avoir, et saint Thomas va baigner là-dedans et va être un des plus beaux fruits, même sans doute, à mon avis, le plus beau fruit de cet enseignement médiéval.
Mmh. Et lors de son passage à l'université à Naples, il est très vite remarqué aussi par sa piété et son intelligence.
Alors, oui, le problème, c'est qu'on a, en réalité, on a peu d'éléments, de témoignages, comme toujours, hein, dans ces époques-là. On a très peu d'idées, de témoignages, de récits, de documents sur ce qu'a pu être l'enfance de saint Thomas. Mmh. À vrai dire, on commence à connaître un petit peu plus à partir du moment où il veut rentrer chez les Dominicains, parce que là, on a des traces de ses passages, on a aussi des frères qui vont le connaître, qui vont le fréquenter et qui vont pouvoir donner des témoignages. Oui. Auparavant, c'est beaucoup plus fragmentaire. Voilà. Mmh. Mais c'est vrai que on sait qu'il fait montre à l'époque déjà d'une très grande sagesse, d'une recherche de la vérité et d'une piété religieuse qui vont le pousser à rentrer dans cet ordre complètement nouveau à l'époque qui est les Dominicains.
Mmh. Et donc à 18 ans, il décide d'entrer chez les frères prêcheurs, ordre mendiant fondé par saint Dominique.
Exactement. C'est une décision qui déroute complètement sa famille.
Mais oui.
Parce que sa famille, c'est une famille de petite noblesse locale, mais qui a quand même des ambitions. Ça n'est pas pour rien qu'elle avait placé Thomas au Mont Cassin. On espérait bien en faire un dignitaire pour l'Église. Ça n'est pas pour rien qu'on lui avait fait faire des études, hein, comme aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on fait faire des études aux enfants. Donc on a des projets pour lui. Or, il se trouve que cet ordre dominicain, c'est un ordre dans lequel la première chose qu'on fait quand on entre, c'est qu'on renonce à tous ses biens et qu'on renonce aussi à des postes, des grands postes,
et oui.
Que ce soit dans l'administration civile ou ecclésiale. Et donc, les parents ne sont pas du tout d'accord. Et Thomas va entrer, recevoir l'habit, et être enlevé par sa famille, donc enlevé contre son gré, évidemment, et séquestré pendant quasiment un an dans le château familial. Et cette séquestration, coupée de tout, on essaye tout ce qui était possible pour essayer de le détourner de cette vocation. Mmh. Et puis de Garlas, à la fin, finalement, la famille le rendra aux Dominicains renonçant, en se rendant compte que de toute façon, ça ne sert à rien de s'obstiner. Mmh. Donc, ce qui montre aussi un autre tempérament de saint Thomas, qui est une très grande fermeté d'âme. Hein, les propos qu'il se fixe et la sûreté de son jugement font que lorsqu'il sait où est ce que Dieu veut, où est le bien, il n'en démord pas, il reste fidèle. Donc c'est un épisode un peu rocambolesque, et en même temps c'est un beau témoignage de sa personnalité.
Et comment justement il va vivre cette séquestration ?
Oh ben, en fait, il va l'occuper à la lecture et à l'étude. Saint Thomas, quand il se retrouve seul, n'est jamais seul. Mmh. D'abord, il y a Dieu, et ensuite, il y a de quoi réfléchir. On peut dire que c'est un aventurier de la réflexion, de la pensée humaine. C'est quelqu'un qui ne va pas cesser, et qui va d'ailleurs s'épuiser là-dedans, qui ne va pas cesser de chercher la sagesse et qui prend tout ce qu'il peut trouver pour cela, qui mène sa réflexion sans cesse, qui revient sans cesse sur les grandes questions de la vie humaine, sur les grandes questions sur Dieu, sur le monde. Et du reste, c'est de cette lente maturation que procéderont ces grandes œuvres. Ces grandes œuvres, c'est parce qu'il a pris le temps de ce recul. Alors on peut se dire, peut-être que ce temps de séquestration a été un bienfait pour lui, parce que il a pris ce recul qui lui a permis d'acquérir cette vision sur le mystère de Dieu, sur le mystère du monde, sur le mystère de l'homme, et d'arriver à en fournir une image assez complète et très pensée, très réfléchie, très mûrie, très sage.
Et après cet épisode, il part faire ses études à Paris.
Alors, en fait, dans cet ordre naissant qu'est l'ordre dominicain, il y a des grands lieux de formation. Et ce qui veut dire que, en fait, saint Thomas, depuis l'âge de 4-5 ans, n'a pas cessé d'être en formation. Hein. Il le sera jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc on a affaire, que quand je disais que l'éducation à l'époque, ça n'était pas rien, c'est quelqu'un qui se forme et puis qui se forme avec du contenu. Hein. C'est pas des petits dessins et des jeux. Et donc, encore que je précise que saint Thomas défend l'importance du jeu. Hein, l'importance du jeu dans la vie humaine. Mais peu importe. Toujours est-il qu'il s'engage donc, il est donc engagé dans des études de théologie. Il avait fait son lycée, on va dire, à Naples, et il va embrayer sur des études de théologie. Et puis très vite, en fait, on repère les très grandes qualités de ce jeune frère. Et on l'envoie faire ses études dans la plus grande université, la plus renommée de l'époque, qui est l'université de la Sorbonne, de ce qui sera la Sorbonne, l'université de Paris. À l'université de Paris, les dominicains, en fait, se sont implantés très tôt. Ils ont obtenu une chaire qui est tenue par les plus grands professeurs que l'ordre dominicain peut fournir, comme toutes les autres chaires, hein, c'est vraiment les plus grands esprits de leur temps. Et ces professeurs, en fait, viennent enseigner pendant 3 ans avant de céder la place au suivant. Hein. Donc ce sont des chaires qui se renouvellent très régulièrement. Et au moment où saint Thomas arrive à Paris, il rencontre Maître Albert, qui sera connu comme Albert le Grand, dominicain allemand. Et ce dominicain allemand est un esprit éblouissant. C'est un professeur qui s'intéresse à tout, qui touche à tout, qui connaît tout, qui a tout commenté, tout étudié, et qui vous initie depuis les minéraux, les traités des minéraux, jusqu'au plus haut sommet de la théologie. Et donc, Thomas se trouve avec une espèce de fontaine qui ne cesse de couler de la connaissance, et il absorbe tout ça, si bien que, en fait, Albert le Grand va le garder comme son assistant au terme de ces 3 années, pour aller à Cologne.
En Allemagne. Qu'est-ce qu'il va apprendre justement à ses côtés? C'est cette connaissance, cette ouverture sur le monde.
Alors, on peut dire qu'il y a effectivement une... Il y a le propos qui est caractéristique du XIIIe siècle, la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, qui est ce qu'on appelle l'université. Universitas, c'est-à-dire ce qui touche à tout, hein, tous les domaines. Et au XIIIe siècle, alors que le niveau intellectuel a quand même énormément progressé, eh bien, y a ce propos de pouvoir faire une espèce de synthèse, de vision générale de toutes les sciences et de tous les domaines. Alors, déjà, à l'époque, il y a des spécialisations, évidemment, et notamment pour saint Thomas, c'est la voie de ce qu'on appellera la théologie, mais qui à l'époque s'appelle plutôt la doctrine sacrée, ou la page sacrée, c'est-à-dire les commentaires de l'Écriture sainte, mais qui, en fait, ont débordé parce que on a inséré toute la réflexion c'est pas simplement l'étude de l'Écriture sainte, c'est aussi tout ce que, par notre intelligence, par notre raison, par notre connaissance naturelle, nous pouvons intégrer dans notre connaissance de Dieu. Et donc, à l'époque de saint Thomas, la discipline de la théologie, c'est une discipline qui intègre des savoirs avec ce propos de connaître Dieu, le mystère de Dieu, et tout ce que Dieu fait. Donc, c'est là où Thomas va se détacher un petit peu de son maître, Albert le Grand. Albert, lui, est un esprit curieux de tout. Donc, je dirais, tous les savoirs l'intéressent, y compris les savoirs qui sont dans d'autres domaines, qui ne sont pas la théologie. Saint Thomas, lui, se consacre vraiment à la théologie. Alors, chez saint Albert aussi, il y avait une dimension théologique, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que saint Albert étudiait les minéraux? Parce qu'il y cherchait, en fait, un symbolisme, il y cherchait une manière de on pourrait dire, on dirait aujourd'hui, d'enchanter le monde, c'est-à-dire d'y trouver des significations, des traces laissées par Dieu, et qui faisait que, par exemple, dans les 12 pierres précieuses qui sont mentionnées par l'Apocalypse comme étant ornant les 12 tours de la Jérusalem céleste, eh bien, on va pouvoir, dans ces différentes pierres précieuses, voir quelque chose des perfections divines. Pour Thomas est plus réservé à cet égard. Pour lui, ce qui lui semble premier, c'est l'argumentation, savoir défendre la foi contre ceux qui se trompent ou ceux qui l'attaquent, et d'autre part, contempler Dieu, connaître, chercher à se rapprocher de lui, et donc il est moins curieux, on pourrait dire, de tous les savoirs, mais en revanche il est plus soucieux de leur unité, de les placer sous cette recherche de Dieu, cette recherche de l'union à Dieu et de la sagesse.
Frère Emmanuel Perriand va faire une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On écoute Pagé Lingua.
Thank you.
Radio Présence à Figeac 97.7. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le frère Emmanuel Perrier, dominicain de la province de Toulouse et spécialiste de Saint Thomas d'Aquin, pour parler de la vie et de l'œuvre de Saint Thomas 1225-1274. Une exposition y est d'ailleurs consacrée au musée de l'Institut catholique de Toulouse. Frère Emmanuel, juste après son arrivée à Cologne avec Albert le Grand, qu'est-ce qui se passe pour Saint Thomas? Il va devenir professeur de théologie.
Alors, en fait, pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a, une... dans ce système universitaire médiéval, il y a une progression. On entre comme étudiant, et puis, pour les meilleurs, pour les meilleurs qui sont destinés à l'enseignement, eh bien, il commence par devenir assistant d'un maître, c'est-à-dire à la fois secrétaire, c'est-à-dire parce qu'à l'époque, hein, il n'y a pas d'enregistrement audio, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas, voilà, donc tout se fait à la main et en écrivant. Il faut des secrétaires, il faut des gens qui prennent des notes de cours, qui remettent ces notes de cours au propre, qui fassent le travail de relecture et qui présentent au maître ce travail. Alors ça, Saint Thomas va le faire avec Saint Albert pour deux grands textes de Saint Albert. D'une part, un commentaire de l'Éthique à Nicomaque d'Aristote, qui est un grand texte de morale et qui va fortement influencer la réflexion morale au XIIIe siècle et plus tard, et qui a été remis en circulation très récemment, parce que la traduction a été faite récemment. Et puis, d'autre part, un commentaire sur les noms divins, qui est un texte d'un auteur pas connu, mais qui en tout cas qu'on nomme Denis l'Aréopagite. Et ce texte, en fait, est un texte mystique de l'adoration de Dieu dans ses noms, les noms d'être, de bien, de vie, de sagesse. Et ce texte, en fait, est déjà une manière qui date d'une dizaine de siècles, de 8 siècles auparavant, est une manière d'articuler déjà une réflexion philosophique, parce que ce texte s'appuie beaucoup sur la philosophie platonicienne, et donc de s'appuyer sur cette philosophie, mais en faisant œuvre de théologie et même de mystique. Et Albert le Grand commente ce grand texte qui va beaucoup inspirer les médiévaux, et Thomas en retirera une profonde impression. On le voit parce que lui-même fera un commentaire de ce grand livre et en sera fortement influencé tout le reste de sa vie. Donc ça, je dirais, c'est son activité d'assistant. Alors c'est une activité un petit peu effacée, hein, c'est assez humble, mais c'est une activité donc de formation, et de formation auprès d'un des plus grands. Donc c'est très formateur pour lui. Et en revanche, son enseignement, il ne va le commencer que en retournant à Paris, donc si je regarde, j'ai besoin de mes antisèches. Il est à Cologne avec Albert entre, en gros, 1248 et 1252. Et il revient à Paris, il est nommé à Paris comme enseignant en 1252. Donc il approche... Il arrive au terme de la formation. Mmh. Il reste une dernière étape à ce moment-là. C'est celle où on commence à enseigner et on a en général 2 ou 3 années d'enseignement comme ce qu'on appelle bachelier sentenciaire, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de l'enseignement de base, qui ne s'engage pas dans des grandes synthèses ou des grandes. Il n'a pas encore l'assurance d'un grand maître, mais il s'agit de faire des commentaires des grands manuels ou de la Bible pour les étudiants, les débutants. Voilà.
Et c'est juste après qu'il devient professeur de théologie, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Hein ? À Paris.
Donc, voilà, à Paris. C'est à Paris qu'en fait il reçoit son titre de maître, qui est en fait le grand titre du professeur médiéval, et que désormais il sera donc titulaire de chaire, ou en tout cas il aura cette reconnaissance du plus haut grade universitaire. Cette reconnaissance, en fait, c'est aussi ce qui lui donne des facilités. D'abord, c'est lui qui va pouvoir fixer des thèmes, des choix de ce qu'il veut enseigner. Bien sûr, il y a les exercices obligés. Pour le maître médiéval, à l'époque encore, en théologie, le maître doit assurer un certain nombre d'exercices. Le premier exercice, c'est le commentaire biblique. C'est-à-dire, on prend un livre de la Bible, du début à la fin, et on en fait le commentaire, c'est-à-dire on dégage le sens littéral, qu'est-ce que Dieu a voulu dire au travers de l'écrivain sacré, et puis, à partir de ce sens littéral, on en dégage le plan, la manière, et puis on étudie mot par mot, qu'est-ce qui est dit, où sont les questions. Qu'est-ce qui pose problème ? Est-ce que là où c'est pas très compréhensible ? Pourquoi est-ce que c'est pas compréhensible ? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter ? Donc c'est une science de la compréhension et de l'écoute de la parole de Dieu, mais de manière assez rigoureuse, assez exigeante. Donc ça, c'est le premier grand travail. Le deuxième, pour un maître, c'est de faire les grands cours, on va dire. Les grands cours à l'époque, le grand cours à l'époque, c'est d'enseigner à partir du manuel de théologie qui s'est imposé un siècle auparavant, un peu moins d'un siècle auparavant, ça s'appelle Les Sentences de Pierre Lombard. C'est un livre qui va façonner la pensée et la théologie du XIIe siècle jusqu'au XVe, XVIe siècle. Donc c'est comme si vous preniez un manuel qui servait pendant trois siècles à tous les étudiants. Donc, c'est un livre qui va être voilà. Il a servi aussi bien parce que, en fait, c'était la première grande synthèse où on recueillait des tas de textes des pères de l'Église, des tas de textes aussi des questions. Et on ordonnait tout ça, on présentait tout ça de manière organisée. Donc, pour le professeur, c'était un outil de base, on va dire. C'était un peu un livre à partir duquel tout le monde avait le même livre, on avait les mêmes citations, on enrichissait, en fait, on disait beaucoup plus de choses, mais on prenait ça comme point de départ. Et saint Thomas s'est livré à l'exercice à Paris, juste avant de devenir maître. Par la suite, il va s'affranchir, ça c'est une des nouveautés, il va s'affranchir de cet exercice obligé de commenter les sentences pour faire ses propres synthèses, parce qu'il va se sentir trop à l'étroit dans cette synthèse de Pierre Lombard. Mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'est déjà devenu un exercice extrêmement de très haut niveau. Le commentaire des sentences des grands maîtres de l'époque, c'est plusieurs milliers de pages. Et il faut se rendre compte que pour les étudiants, on entrait dans tous les détails. C'était tous les matins, en général à 6h du matin, 7h du matin. Alors, il y avait les jours de fête, jours de fête des apôtres, des grands saints, les grandes fêtes du christianisme, où on ne travaillait pas, mais tous les matins, à 6h ou 7h, il y avait le grand cours du maître. Et donc, ça avançait, et puis ça vous stimulait, c'est beaucoup, beaucoup d'intelligence qui sont dans ces pages. Et puis le troisième exercice, il y en a un quatrième, mais le troisième grand exercice universitaire, c'est celui de la dispute. C'est-à-dire, c'est un exercice de confrontation intellectuelle où on se réunit comme des personnes qui cherchent ensemble la vérité. Donc, on se stimule avec des arguments, des objections, et on cherche à répondre à une question précise. Hein. Est-ce que l'âme est immortelle ? Quels sont les arguments pour ? Quels sont les arguments contre ? Est-ce que notre monde a toujours existé ? Est-ce qu'on a des éléments pour répondre ? Oui, non, comment est-ce qu'on résout ? Et évidemment, pour pas que ça devienne ce qu'on voit aujourd'hui dans nos émissions de télévision ou de je ne sais pas quoi, des simples jeux dans lesquels on finit par s'appeler par des noms d'oiseaux et dans lesquels, en réalité, il n'y a plus beaucoup de réflexion, mais beaucoup d'invectives ou beaucoup de passion. Tout ça est sous la direction du maître qui oblige les étudiants à formuler leurs arguments d'une manière très serrée, très précise. Et puis, les étudiants pour ça, s'expriment, les étudiants contre s'expriment. Il y a un arbitre qui est en général donc l'assistant du maître, et le maître, à la fin, va trancher en proposant sa solution, et il va être obligé de répondre à toutes les objections.
Ah, oui.
Donc vraiment, c'est un exercice de réflexion en commun, très exigeant du point de vue de ce qu'on demande à chacun, c'est-à-dire faut faire taire ses passions et faut arriver à argumenter, à mettre en œuvre sa réflexion, sa raison, et puis pour aboutir à la vérité. Donc Thomas va beaucoup se prêter à cet exercice, ce qui nous a laissé des centaines de pages de questions disputées. Et puis le dernier, je le mentionne quand même, dernier exercice, c'est celui de la prédication. Les grands maîtres devaient faire des grands sermons universitaires, qui étaient des sermons, par exemple, pour les grandes fêtes, ou pour les rentrées solennelles, ou pour les fins d'année. Et là, c'était des grands sermons, donc dans lesquels il s'agissait non pas d'argumenter, non pas de commenter la Bible, mais plutôt de guider ceux qui écoutaient vers les mystères divins, d'essayer de stimuler en eux la dévotion et l'amour de Dieu. Voilà. Donc Thomas s'est prêté à tous ces exercices durant ces années à Paris, ce qui a fait un très riche enseignement.
Et sa renommée internationale.
Alors c'est à ce moment-là qu'évidemment, alors il était déjà repéré, hein,
oui.
Puisque en fait sa formation n'a cessé d'être écourtée parce que il avait des très grandes capacités, il n'a cessé d'être repéré et donc toujours guidé. Là, on voit que le système fonctionnait parce que on savait faire monter les meilleurs pour servir au bien de tous.
Oui.
Et donc, en fait, assez jeune pour l'époque, c'est-à-dire vers l'âge de 30 ans, il va commencer à enseigner. Et après avoir bénéficié d'une bonne vingtaine d'années de formation à très haute dose et à très haut niveau. Donc, il a déjà été repéré. Mais c'est vrai que, dès son premier enseignement, et aujourd'hui, avec le recul, on le voit quand on compare aux grands maîtres de l'époque, et qui eux aussi ont laissé des enseignements, des commentaires, des sentences, notamment, de Pierre Lombard, on voit que déjà, il est à un très haut niveau, on a vraiment des très grands esprits à l'époque, mais on voit déjà qu'il y a, il est déjà un cran au-dessus, alors qu'il est tout jeune. Et ce qui est fascinant d'ailleurs dans ce texte de Genèse, qui est son commentaire des sentences, c'est de voir qu'il tient déjà des choses très profondes, très belles, avec une grande vigueur, qui va garder toute sa vie, même si c'est de manière très humble, très, très effacé. Thomas, une des particularités de saint Thomas, il ne veut pas vous faire passer ses idées à lui.
Ah oui.
Donc il s'efface. Si jamais il a une très bonne idée, il pense, ah oui, ça c'est tellement beau, voilà, et c'est ça ce que je veux transmettre, et puis qu'il s'aperçoit que, oui, mais la vérité oblige à en rabattre un peu, à dire non, c'est pas la vérité de la foi ou la vérité de la raison, oblige à non, c'est pas exactement ça. Il s'efface, il va pas du tout soutenir quelque chose qui, dès lors que la vérité s'impose à lui, il est là pour la servir. Il est là pour, il est pas là pour se servir, il est là pour la servir. Ce qui donne à ces textes toujours quelque chose de très impersonnel. On a l'impression qu'on n'a pas quelqu'un qui se confie, hein. On n'a pas quelqu'un qui vous parle de lui, qui vous expose ses états d'âme. Mais, en fait, d'abord, avec le temps, avec la fréquentation, on apprend à repérer, en fait, ce qui est sa grande spiritualité de fond. Mais surtout, ça montre, c'est pas que c'est un esprit froid, c'est pas que c'est un esprit qui a renoncé à être humain, c'est qu'au contraire, il a choisi d'être au service de plus grand que lui. Et donc, il sait s'effacer, il sait faire prévaloir ce qui est vrai sur ses idées à lui. Mais c'est là qu'il est grand, c'est là qu'il nous montre, il nous conduit vers des choses immenses.
Frère Emmanuel, oui. Oui,
c'est une grande aventure. Suivre saint Thomas, c'est suivre une aventure. Hein? Alors, c'est sûr, ce n'est pas une aventure vers les terres inconnues, vers on ne grimpe pas des sommets de montagne des Pyrénées, mais on est dans des sommets de vie spirituelle, des sommets de vie de l'intelligence, des sommets de sagesse humaine. Voilà, c'est ça l'aventure qu'il offre.
Et oui. Frère Emmanuel Perrion va faire une deuxième pause musicale dans cette émission Vivante Église. Ce sera la dernière. On écoute Adorote et on revient dans quelques instants.
Thank you. Présence à Millau, 106.5.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le frère Emmanuel Perrier, dominicain de la province de Toulouse et spécialiste de Saint Thomas, pour parler d'un des plus grands docteurs de l'Église. Une exposition y est d'ailleurs consacrée à l'Institut catholique de Toulouse au sein du musée de l'ICT depuis mercredi et ce jusqu'au 29 juin. Frère Emmanuel, Saint Thomas, dans la dernière partie de sa vie, il va beaucoup voyager à la demande des papes.
Alors, pas seulement des papes, parce qu'en réalité, c'est la manière dont ça fonctionne à l'époque. Hein, cette époque du Moyen-Âge, c'est une époque où on voyage beaucoup. L'Europe, on n'a pas attendu le XXe siècle pour se promener en Europe. Saint Thomas ne va pas cesser d'accumuler les kilomètres, et puis à l'époque c'est pas en avion, hein, c'est à pied, et surtout pour un frère prêcheur, interdiction d'utiliser autre chose que les pieds. Donc, voyager, ça veut dire on quitte Paris. Par exemple, on était resté à Paris, où donc il va faire son enseignement de 3 années et demie. Et puis, à la suite de ça, un autre maître vient à sa place et lui va être envoyé en Italie, où il va passer de lieu de formation en lieu de formation. Il va toujours être professeur, mais dans des plus petites institutions, institutions d'abord de l'ordre. Donc c'est l'ordre dominicain d'abord qui le renvoie en Italie pour qu'il il fasse profiter les provinces italiennes, les couvents italiens, avec beaucoup de jeunes frères, qu'ils les fassent profiter de ce qu'on fait à Paris. Hein, il a appris les meilleures choses à Paris, très bien, maintenant il va en faire bénéficier les frères en Italie. Donc il va aller à Naples, il va aller à Orvieto, à la cour papale, il va aller à Rome, et il est vrai que sa renommée le précédent, parce que il n'y a pas de photocopieuse à l'époque, mais il y a des ateliers de copistes qui sont extrêmement actifs, notamment autour des universités. Il faut se rendre compte qu'un cours d'un professeur, il était recopié en N exemplaires dans la semaine ou dans les semaines qui suivaient l'enseignement. Et que, du reste, comme tout ça se faisait... Il y avait toute une industrie derrière, parce que tout ça se faisait sur du parchemin. Le parchemin, c'est-à-dire, sur des pots. Et donc, les pots, ça voulait dire des troupeaux entiers de vaches qui y passaient tous les ans. Des milliers de vaches ou des dizaines de milliers de vaches étaient utilisées tous les ans pour faire de la photocopie. Hein. Donc, les copies des cours se diffusaient depuis Paris, mais depuis toutes les universités, vers d'autres centres, et les bibliothèques se constituaient, se remplissaient, et puis donc on connaissait Saint Thomas un peu partout, et donc sa renommée le précède. Et c'est vrai que à la fois il va assumer ses cours, mais il va se mettre il va être sollicité par beaucoup de personnes, notamment par les papes, mais pas seulement, aussi par des évêques, par des rois, par des princes, y compris des on a un archidiacre qui travaillait avec les Byzantins et qui était au contact aussi des musulmans, qui va l'interroger lui poser des questions. Enfin bref, il va se mettre à être beaucoup sollicité. Alors ça va contribuer évidemment à son épuisement, parce qu'il a une espèce de générosité, et puis il a une telle facilité à écrire et à réfléchir, qu'il va mener de front ses études auprès des étudiants, donc son enseignement. Il va rajouter à cela des ouvrages qu'il fait pour lui-même, et ou pour les autres, mais en tout cas qu'il fait en plus. Et puis à cela, il répond en plus aussi des ouvrages pour ceux qui l'interrogent.
Les derniers mois de la vie de saint Thomas sont marqués par un climat mystérieux. Fin 1273, il appelle son grand ami et secrétaire pour lui dire d'arrêter tout travail, car il a reçu une révélation divine durant la Sainte Messe. Expliquez-nous.
Oui, ben, il faut se rendre compte, c'est qu'il approche de la cinquantaine. Il n'a pas cessé de travailler, de réfléchir et de chercher Dieu depuis cette période. Et ça, pour le coup, on le sait, c'est attesté par tous ceux qui l'ont vécu, vu vivre. C'est quelqu'un qui n'a pas cessé, qui ne s'est pas arrêté. Oui. Et cette espèce de force impressionnante qui s'est déployée sans interruption, avec une fidélité à la vie religieuse, fidélité au propos de transmettre la vérité, de chercher la vérité, eh bien, il arrive, vers la fin de sa vie, à la fois à des sommets dans sa théologie. Ce sont les grands moments, notamment il finit par, on va dire, plusieurs grandes œuvres, mais un traité sur les mystères de la vie du Christ, c'est-à-dire une méditation théologique, évidemment, toujours aussi sérieuse, mais en même temps, on sent une très grande profondeur de cette proximité du Christ et de connaissance du Christ. Son grand traité sur l'Eucharistie, qui va en faire, vous citiez les musiques qu'on a entendues, le Pange Lingua, le Tantum Ergo, tout cela, ce sont des poésies écrites par saint Thomas, pour la Sainte Eucharistie, parce que dans ce sacrement, il y rencontre qui ? Il y rencontre le Christ lui-même, qu'il cherche dans tout son travail, dans tout son enseignement, depuis des années. Donc, tout ça le porte vers une espèce de comment dire ? Il a tout dit, il se rapproche de celui qu'il a cherché et qu'il a enseigné toute sa vie, de toutes ses forces. Et en même temps, c'est le moment aussi, certainement, où les forces arrivent au bout. C'est-à-dire qu'il a, il a tout donné et il n'en peut plus. Et il y a, je pense, à la fois un épuisement du point de vue humain, et en même temps aussi, c'est le moment de dire, j'ai mené tout ce que j'avais à mener. Et en fait, Dieu lui accorde à ce moment-là une vision où, il voit ce que jusqu'à présent, il ne faisait que percevoir par la pensée. Hein. Et donc, à ce moment-là, face à ce qu'il a vu, il l'a déjà connu par la sagesse, par la recherche de la vérité. Mais quand on le voit, évidemment, tout ce qu'on a enseigné paraît, comme il le dira, il le confiera, comme de la paille. Non pas que ce que j'ai entendu parfois, on disait « Ah bah oui, donc c'est la preuve que saint Thomas a dit que tout ce qu'il avait fait ne servait à rien. » Non mais écoutez, relisons un petit peu et nourrissons-nous un petit peu. Non, tout ce qu'il a fait vaut pour nous. Tant qu'on ne sera pas face à Dieu, on a besoin d'être instruit, on a besoin de se former, on a besoin de réfléchir. Et puis, quand on est face à Dieu, là, évidemment, tout cet ouvrage de notre vie ici-bas trouve son terme. Et puis, on voit. Hein. Donc, en attendant, on n'est pas dans la vision, il faut le travail de la foi et le travail de l'intelligence. Mais pour Thomas, ça a été le bout du chemin. Et c'est vrai qu'à partir de là, il a continué à dicter quelques textes. Il a fait quelques petites choses. Mais désormais, il sait que la mort approche. Il se prépare à la mort. Il se prépare à retrouver Dieu qu'il a cherché toute sa vie.
Et il décède en 1274 à l'abbaye de Fossa Nova. En deux minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir de la pensée de saint Thomas ? Quel héritage il laisse derrière lui ?
L'héritage, je dirais, un grand élan pour Dieu. Ne jamais cesser de chercher Dieu. On n'est jamais arrivé. Et deuxième héritage, que cette recherche fasse grandir l'humilité et non pas l'orgueil ou la vanité.
Ah oui.
Thomas, c'est quelqu'un qui, plus il approche de Dieu, plus il en sait, plus il reconnaît qu'il est une simple créature et plus il reconnaît la grandeur de Dieu. C'est, je pense, aujourd'hui quelque chose de très utile dans notre monde de sachants, de gens qui savent tant de choses, mais qui tournent, pour qui la science tourne à l'orgueil et donc, en fait, à l'échec de la vie humaine. L'amour de Dieu dans de manière humaine, toute simple. Saint Thomas, c'est quelqu'un pour qui la personne la plus simple qui confesse la foi est son égal. Parce que confesser la foi, dire son credo, c'est pour lui le but. C'est la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu. Et le plus humble acte de foi et d'amour de Dieu et d'espérance en Dieu, le met, pour lui, c'est l'équivalent de tout ce qu'il fait. Simplement, ce qu'il va faire, c'est aller plus loin dans la recherche. C'est pas pour s'arrêter qu'on fait tous ces actes, c'est pour chercher Dieu, ne cesser de le chercher. Donc, il est un encouragement à une vie spirituelle équilibrée, humble, et qui nous met en prise avec ce pour quoi l'homme est fait, chercher Dieu, faire le bien autour de soi, et y aller paisiblement, de manière équilibrée, mais sans se lasser, et sans s'arrêter, en fidélité et humilité.
Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, frère Emmanuel Perrier,
je vous en prie,
d'avoir accepté de participer à cette émission et de nous avoir livré votre savoir sur Saint Thomas.
Il faut prier Saint Thomas. Il faut se confier à Saint Thomas. Confier notre vie. Il y a une grande tradition de dévotion à Saint Thomas.
Et bien, on retient ça. Merci beaucoup. Si vous souhaitez réécouter cette émission Vivante Église, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Je vous rappelle cette exposition sur Saint Thomas au musée de l'Institut catholique de Toulouse depuis mercredi et ce jusqu'au 29 juin, exposition sur le jubilé de la canonisation de Saint Thomas d'Aquin. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.